La commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement.
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, l'émission de sortir du nucléaire Drôme Ardèche. Aujourd'hui, nous avons reçu, parce que c'est un entretien qui a été enregistré, Wataru Iwata, qui est un des créateurs de l'équivalent de la CRIRAD au Japon sur le site de Fukushima. Mais avant d'interroger Wataru Iwata, nous avons Céline qui a sacrifié aujourd'hui, si j'ai bien compris Céline, aux œufs de Pâques et qui veut nous parler des œufs de Paluel. Bonjour Céline.
Bonjour à tous. J'espère que vous êtes nombreux à nous écouter en ce lundi férié et que vous aurez profité de ce dimanche de Pâques pour vous adonner avec vos enfants à la traditionnelle recherche d'œufs dans le jardin. De mon côté, mon fils est encore petit, mais je languis de pouvoir vivre ce moment joyeux avec lui, acceptant de me lever aux aurores pour camoufler cocottes, lapinous et autres douceurs chocolatées dans les touffes et bosquets printaniers que Dame Nature aura bien voulu mettre à notre disposition. Mais quelle n'a pas été ma surprise d'apprendre récemment qu'une entreprise française a décidé de participer à cette joyeuse tradition. Eh oui, EDF. EDF propose cette année une grande chasse aux œufs à destination des enfants au centre d'information du public de la centrale nucléaire de Paluel, en Seine-Maritime. Cette chasse sera suivie d'un quiz sur la centrale. Non, non, ce n'est pas un poisson d'avril en retard. Venez, venez les petits enfants chercher vos œufs au pied de nos réacteurs, cachés sous nos wagons de combustible ou au coin de nos piscines où refroidissent tranquillement nos déchets radioactifs. Je caricature bien sûr, la chasse n'aura pas directement lieu dans l'enceinte de la centrale. Mais EDF en profitera sûrement pour asséner son discours aux bambins sur les bienfaits de l'industrie nucléaire. Je vous invite à ce sujet à relire le billet de Jeanne sur l'interview d'une personne d'EDF par des enfants du Pila, voisins de la centrale de Saint-Alban, Saint-Maurice-l'Exil. J'espère qu'ils n'oublieront pas de raconter comment se passent les fêtes de Pâques au Niger. Les enfants, voisins des mines d'Arlite, font-ils la chasse aux œufs dans leur jardin recouvert de poussière d'uranium? Ouf, on a de la chance, ils ne fêtent pas Pâques, ils sont musulmans. Et les enfants de Tchernobyl et Fukushima, iront-ils équipés de leur dosimètre chercher cocottes et lapinous en chocolat dans les touffes et bosquets contaminés pour des centaines et des centaines d'années? Pour finir, je pense que EDF n'oubliera pas de dire, en cette période de Pâques, fête de la résurrection du Christ pour les chrétiens, qu'elle aussi est plus forte que la mort. Elle a inventé l'éternité avec ses déchets radioactifs. Et nos descendants, génération après génération, n'ont sûrement pas fini de le célébrer. Dommage que le cynisme ne soit pas un péché mortel. EDF, obtenant la palme en la matière, irait rapidement griller en enfer. En attendant, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Pâques.
Merci Céline, ça aurait pu être lu sur la place Saint-Pierre aujourd'hui.
Ouais, c'est ça, sur un fond de cloche.
Et Vanessa, toi tu veux nous parler des énergies renouvelables et surtout des consommations de charbon.
Oui, bonjour à tous.
Alors, elle est en train de manger un œuf de Pâques, Vanessa.
C'est vrai. Je souris en écoutant et en découvrant le billet de Céline, parce que moi je voulais introduire mon petit laïus en parlant du lundi de Pâques. Et je voulais dire aussi que c'était une fête religieuse, mais Céline, tu l'as fait à ma place. Non, moi je voulais pas vous faire un exposé, je voulais juste dire fête religieuse, et je voulais pas expliquer ce que représentait cette fête, mais tu l'as fait Céline, parce que moi je me suis dit, oulala, principe de laïcité oblige, je vais m'abstenir. Par contre, je me disais ce matin, au lever, ben, qu'on était tous bien contents de pas aller travailler aujourd'hui et de pouvoir profiter de ce beau soleil qui plane au-dessus de la Drôme et de l'Ardèche. Et je me disais aussi, attention qu'un jour on ne nous supprime pas nos fêtes religieuses, le 1er novembre, le 25 décembre, et ce fameux lundi de Pâques, au nom de la laïcité. Voilà, alors, je vais passer à autre chose, parce que là, les collègues vont commencer à me faire les gros yeux.
Il y a intérêt.
J'en reviens à nos moutons, le nucléaire. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Et les bonnes nouvelles, ça fait du bien, surtout par les temps qui courent. Pour cela, je vais vous parler de l'Allemagne. Et à la question « Est-il exact que la production électrique à base de charbon a augmenté consécutivement à la baisse de la production d'énergie nucléaire en Allemagne ?» Eh bien, je vous répondrai que les énergies fossiles et les énergies renouvelables sont en concurrence dans la production d'électricité allemande. Avec cette différence que les énergies renouvelables disposent d'un accès prioritaire sur le réseau de distribution d'électricité. Résultat, plus elles produisent d'électricité verte, plus la part de l'énergie fossile dans le bouquet énergétique allemand baisse, et la rentabilité des centrales à charbon avec. Le modèle économique du charbon a donc du plomb dans l'aile outre-Rhin. Le ministère de l'économie et de l'énergie vient de publier un projet de loi dévastateur pour les tenants d'une électricité dopée à la houille. Les centrales à charbon de plus de 20 ans d'âge devront payer une amende comprise entre 18 et 20 euros par tonne de dioxyde de carbone si elles émettent plus de 7 millions de tonnes de CO2 par gigawattheure. Alors pourquoi un tel marasme ? Les centrales à charbon ne sont plus rentables. Elles ne parviennent pas à tenir la concurrence avec les énergies renouvelables, qui représentent actuellement 27% de la production nationale d'électricité en Allemagne. Oui, les énergies renouvelables se sont développées ces 10 dernières années plus vite que prévu. Dans le même temps, les énergéticiens ont choisi d'investir dans de nouvelles centrales à charbon et à gaz. Ce qui fait qu'en Allemagne, actuellement, on a trop de centrales, malgré l'arrêt progressif des pôles nucléaires. Trop de centrales et donc trop de production d'électricité. L'Allemagne exporte de plus en plus son électricité dans les pays voisins, à tel point que le pays est devenu l'exportateur d'électricité numéro 1 en Europe, une situation qui a pour origine les mauvais choix stratégiques des énergéticiens. Alors, pour survivre, les énergéticiens n'ont d'autre choix que de redéfinir leur stratégie. Après avoir longuement ignoré tout le potentiel offert par l'essor des énergies renouvelables, c'est paradoxalement vers ce secteur qu'ils se tournent pour espérer continuer à vivre. Alors le dogme répété de manière pavlovienne selon lequel davantage de renouvelables conduit nécessairement à davantage de centrales fossiles et son corollaire « nous avons besoin du nucléaire pour sauver le climat » sont tout simplement infondés. L'Allemagne le démontre de manière claire et nette. Les énergies renouvelables sont capables de faire reculer d'emblée toutes les énergies sales, génératrices de gaz à effet de serre ou de déchets toxiques et à très longue durée de vie. Voilà, je vous souhaite un bon lundi.
Merci Vanessa. Alors c'est vrai qu'on prend souvent l'Allemagne comme exemple et pas toujours à bon escient, mais là, pour le coup, c'est un très bon exemple.
Oui. Alors c'est vrai que nous, anti-nucléaire, soit on nous oppose l'éclairage à la bougie, ça fait 40 ans que ça dure, et puis depuis quelques temps, on nous dit « Oh bah oui, vous voulez fermer les centrales nucléaires, ça va faire comme en Allemagne, on va réouvrir des centrales à charbon qui augmentent dramatiquement les gaz à effet de serre. » Eh bien non, aujourd'hui, cet argument n'est plus valable.
Merci Vanessa. Eh bien, on va écouter Full Connection.
I'm running out of hate.
Eh bien, maintenant, nous allons écouter l'entretien que nous avons fait avec Wataru Iwata. Alors, le son n'est pas excellent, vous nous en excuserez. Voilà.
Ouais. 4 ans après la catastrophe de Fukushima, la CRIRAD reçoit son partenaire japonais depuis mai 2011, Monsieur Wataru Iwata, créateur entre autres du CRMS, pour ce qui veut dire Citizen Radioactivity Measuring Station. Nous profitons de son passage à Valence pour le rencontrer. Ce compositeur de musique de Tokyo, devenu par nécessité et conviction un spécialiste du nucléaire. Alors, notre première question, Wataru, c'est, vous avez créé dans les jours et mois qui ont suivi la catastrophe nucléaire du 11 mars 2011, dans un premier temps un laboratoire citoyen pour mesurer la radioactivité, ce qu'on appelle le CRMS, l'équivalent de la CRIRAD en France, puis une association internationale liant citoyens et scientifiques indépendants, permettant aux citoyens de connaître les impacts sanitaires et environnementaux de l'irradiation, le CRSP. Quel bilan tirez-vous, 4 ans après, de ces deux associations?
In the situation when the people have no method, no way to screen their own food product, and this for success to establish not only for CRMS, but we encouraged other citizens in other places beyond the Fukushima to install the monitoring station in
Donc la première association que nous avons créée, CRMS, avait pour objet de répondre essentiellement aux besoins des gens de contrôler la contamination des aliments. Et nous avons développé ce type de laboratoire, pas seulement dans la préfecture de Fukushima. Dans la phase 2011-2012, on pense que plus de 80 laboratoires indépendants comme ça se sont mis en place au Japon, seulement une petite fraction avec l'aide du CRMS. Combien reste-t-il aujourd'hui? Nous ne le savons pas. L'idée, c'était de rendre les citoyens indépendants qui puissent eux-mêmes contrôler la contamination de leur alimentation de façon à pouvoir améliorer leur protection. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième association que j'ai contribué à créer, le CSRP, il s'agissait pour nous de donner aux gens des connaissances pour interpréter les résultats des mesures, parce que faire des mesures, ça ne suffit pas, il faut être capable de les interpréter. Et c'est pour ça que dès la première année, en 2011, nous avons créé ce symposium international pour mettre en relation les scientifiques et les citoyens. Et c'est une initiative qui s'est beaucoup développée, dont les objectifs ont changé au cours des années, puisque les données ont évolué, la politique du gouvernement a changé et on doit s'adapter en permanence et adapter nos objectifs. Aujourd'hui, nous avons des contacts avec beaucoup plus de scientifiques, à la fois sur les effets des faibles doses de radiation, ça c'est par rapport aux sciences dures, les sciences naturelles, mais aussi des sociologues, des spécialistes de l'éthique, des juristes, et on travaille avec tous ces scientifiques pour développer des stratégies de contre-mesures pour le futur. Et c'est un travail qui vraiment se développe beaucoup actuellement.
Un dépistage des cancers de la thyroïde chez les enfants jusqu'à 18 ans a été mis en place dans la préfecture de Fukushima. Relève-t-on des différences entre les effets sanitaires de la catastrophe de Tchernobyl et celle de Fukushima? Quelles sont les limites de ces études gouvernementales?
One difference is at the Chernobyl, because they didn't have certain equipment to screen thyroid. What I mean is now Fukushima, they are applying ultrasonic screening on.
D'abord, si on compare Tchernobyl et Fukushima par rapport au dépistage des cancers de la thyroïde, il y a une grosse différence, c'est que au moment de la catastrophe de Tchernobyl, il n'y avait pas d'équipement sophistiqué pour diagnostiquer des pathologies thyroïdiennes. Il n'y avait pas d'échographie disponible de façon importante, et les tests qui étaient faits à Tchernobyl, en tout cas pendant les 4 premières années, étaient faits par palpation manuelle. Ce n'est qu'au bout de 4 ans que, du fait de la mobilisation d'organisations internationales, des équipements de contrôle plus sophistiqués ont été fournis. Et du coup, on ne peut pas comparer les données de Tchernobyl au niveau numérique avec les données de Fukushima. Du fait de ces problèmes méthodologiques, la question qui se pose, c'est de savoir si, dans le cas de Tchernobyl, la découverte d'une augmentation très forte du taux de cancer thyroïdien 4 ans après était liée à un problème de mauvaise qualité des équipements pour le dépistage pendant les 4 premières années, ou si c'est lié à un temps de latence réel, c'est-à-dire qu'il faudrait attendre 4 ans pour que se révèlent les cancers de la thyroïde, ça reste une question pour nous. En tout cas, à Fukushima, on en est justement aujourd'hui 4 ans après, et on va suivre ça de près, on attend de voir. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que les contrôles sanitaires qui sont conduits aujourd'hui, sous l'égide de la préfecture de Fukushima, par l'université médicale de Fukushima, ces contrôles ont 3 points faibles, de notre point de vue. Le premier, ils ne portent que sur les personnes qui vivaient dans la préfecture de Fukushima au moment de la catastrophe. Or, d'autres zones du territoire japonais ont été contaminées et les personnes vivant dans ces zones devraient faire partie de ces suivis sanitaires. Deuxièmement, la nature des contrôles porte essentiellement sur le dépistage du cancer de la thyroïde, sur une reconstitution des doses, mais il n'y a pas de recherche systématique de toute une série d'autres pathologies. Il n'y a pas, par exemple, de contrôle sur le sang ou les urines, à part pour les personnes qui ont été forcées d'évacuer la zone proche de la centrale, mais ça ne concerne pas du tout l'ensemble de la population contaminée. Et troisième point, les dépistages du cancer de la thyroïde, les contrôles sont faits surtout sur les gens qui avaient moins de 18 ans au moment de la catastrophe, et il faudrait généraliser ces contrôles au groupe d'âge supérieur, les gens qui avaient plus de 19 ans, et les adultes. Donc en conclusion, nous ce que nous recommandons, c'est que ces méthodes de contrôle sanitaire soient améliorées. Un, que l'extension spatiale soit agrandie, il faut contrôler les populations pas seulement qui vivaient dans la zone de Fukushima. Deuxièmement, que les contrôles portent sur d'autres pathologies, pas seulement le cancer thyroïdien. Et troisièmement, que les contrôles portent sur tous les groupes d'âge, y compris les adultes, et pas seulement les enfants.
TEPCO, l'EDF japonais, a 4 ans après, pu retirer les barres de combustible usées de la piscine du réacteur numéro 4, qui présentait de graves risques d'effondrement. Les réacteurs 1, 2 et 3 sont gravement endommagés et trop radioactifs. Les fuites d'eau contaminées sont courantes. 4 ans après, où en est-on de la contamination atmosphérique au Japon et de la contamination de l'océan? Pourra-t-on un jour isoler les 4 réacteurs?
Okay, so for right now, according to the latest information from TEPCO, 10 million becquerel of total cesium.
D'après les dernières données qu'a transmis TEPCO, en ce qui concerne les rejets dans l'atmosphère, on nous parle de 10 millions de becquerels de césium total rejetés à l'atmosphère à chaque heure. Et en ce qui concerne la contamination du milieu marin, TEPCO ne donne les chiffres que pour 3 radionucléides, le strontium, le césium, le tritium. Et les dernières évaluations font état d'un rejet de 21 milliards de becquerels par jour dans l'océan Pacifique. Bon, d'après les documents officiels de TEPCO, le calendrier pour la mise en sécurité du site sont évoqués dans ces documents les chiffres de 30 à 40 ans, donc pour obtenir cette mise en sécurité. Mais personnellement, j'ai pu parler avec un salarié de TEPCO qui reconnaît en fait que, au sein même de TEPCO, beaucoup de gens ne croient pas qu'il soit possible de construire le premier sarcophage en moins de 70 ans. Je dis premier sarcophage parce que si on regarde la situation de Tchernobyl, aujourd'hui, près de 30 ans après, vous savez qu'ils sont en train de construire un second sarcophage compte tenu des risques d'effondrement du premier.
Après l'évacuation dans un rayon de 20 km autour de la centrale au lendemain de la catastrophe, on assiste 4 ans après à un retour des populations largement encouragé par le gouvernement. Comment les populations ont fait le choix de partir ? De rester ou de revenir, c'est la première question. Et sont-elles conseillées, soutenues, indemnisées?
I don't have any information. I mean, I know the...
Bon, je n'ai pas toutes les réponses à votre question. Le ministère de l'Environnement et l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, prétendent qu'en dessous d'une dose de 20 millisieverts par an, on peut vivre, que cette dose serait acceptable. Maintenant, Est-ce qu'il paie les gens pour revenir? Je n'en sais rien. En tout cas, il les encourage clairement en leur faisant croire qu'en dessous de 20 millisieverts, il n'y a pas de, de risque. Mais il faut aussi préciser que ce n'est pas seulement le gouvernement qui encourage les gens à revenir sur les territoires contaminés. Certaines personnes, elles-mêmes, souhaitent revenir sur les zones contaminées.
Eh bien, avant de passer à notre deuxième partie d'entretien, un petit peu de Vanessa Paradis avec Pas besoin de permis.
Si t'as la moyenne en rien, tu pourras faire Condé ou pourquoi pas musicien. Ma maman me disait, si t'as la moyenne en rien, par le collier. Si t'es économe, que tu fais pas de bruit. Si t'es dans la norme, que tu restes assis. Si t'as des carences et penses être maudit, rends-toi l'évidence. Tu peux réussir ta vie. Si t'as la moyenne ou rien, tu peux faire des étincelles. Dis-le toi, dis-toi le bien. La vie, la vie, la vie, c'est comme un tractopelle. T'as besoin de permis. T'as besoin de permis. Si t'as la moyenne en rien, tu pourras faire curé ou pourquoi pas magicien. Ma maman me disait, si tu t'agites pour rien, tu ne peux plus respirer. Ça ne sert à rien de ça de s'agiter. Économe, que tu fais pas de bruit. Si t'es dans la norme, que tu restes assis. Si t'as des carences et penses être maudit, rends-toi l'évidence. Tu peux réussir ta vie. Si t'as la moyenne en rien, tu peux faire des étincelles. Dis-le toi, dis-toi le bien. La vie, la vie, la vie, c'est comme un tractopelle. T'as besoin de permis. T'as besoin de permis. Un peu les points, tu vas te régaler. Si t'as la moyenne en rien, tu peux te faire lire. Même si ça ne sert à rien, c'est mieux que le vol à la tire. Si t'es économe, que tu fais pas de bruit. Si t'es dans la norme, que tu restes assis. Si t'as des carences et penses être maudit, en toi l'évidence, tu peux réussir ta vie. Si t'as la moyenne en rien, tu peux faire des étincelles. Si t'as la moyenne en rien, ta limite sera le ciel. Dis-le toi, dis-toi le bien. La vie, la vie, la vie, c'est comme un tractopelle. Pas besoin de permis. Pas besoin de permis. Pas besoin de permis.
Vous êtes toujours sur Atomic Mac. Nous reprenons notre entretien avec Wataru Iwata. Alors la qualité, on s'en excuse encore, la qualité de l'enregistrement n'est pas parfaite. Vous pouvez augmenter le volume de votre poste de radio.
En 2011, la population japonaise, on l'a vu, s'est fortement mobilisée, et pas seulement dans la province de Fukushima, mais aussi dans tout le Japon. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que cette mobilisation est maintenue ? Les élus, les partis politiques ont-ils évolué sur le nucléaire ? Et enfin, On vient d'en parler, un nouveau séisme est possible, un nouvel accident nucléaire est possible. Les leçons ont-elles été tirées pour la protection des installations existantes ?
Par rapport à votre deuxième question, je n'ai pas la réponse. Par rapport à la première question, les gens sont toujours, mobilisés dans la mesure où ils sont toujours très attentifs aux questions nucléaires, d'un côté. Mais le nombre de gens qui manifestent diminue. En 2012, par exemple, tous les vendredis, une centaine de milliers de personnes manifestaient devant la maison du Premier ministre en criant. Aujourd'hui, il n'y a plus que 200, 300 personnes. Alors, c'est probablement lié au fait que beaucoup de Japonais, probablement la majorité, pensent qu'il ne faut pas redémarrer les centrales nucléaires. Et parce que c'est un sentiment qui est partagé par la majorité, les gens ne ressentent pas le besoin d'agir par rapport à cet objectif, de venir devant la maison du Premier ministre pour crier qu'il ne faut pas redémarrer les centrales. Un autre élément aussi, c'est que au moment de la catastrophe, les gens sont venus spontanément. Personne ne leur a demandé de manifester. Ils sont venus spontanément. Et personnellement, au Japon, j'avais jamais vu une telle mobilisation. Mais aujourd'hui, comme le nombre de manifestants baisse, certains groupes d'activistes souhaitent que la mobilisation reprenne le dessus, mais le font de manière maladroite. Ces activistes sont trop militants, sont trop pushy, sont trop incisifs, et les gens n'aiment pas être poussés s'ils n'en ont pas envie. Donc l'action de ces activistes finalement est contre-productive, elle arrive à produire l'effet inverse de ce qui est escompté, c'est-à-dire empêcher les gens finalement de... C'est-à-dire, l'action de ces groupes d'activistes, que je respecte par ailleurs, puisque certains ont été mobilisés depuis des années et des années et n'étaient pas écoutés à l'époque, mais leur action aujourd'hui est, dans une certaine mesure, contre-productive.
On a la chance, Bruno, que tu nous aies fait la traduction et que tu es ingénieur en physique nucléaire pour le laboratoire de la CRIRAD. On aura le temps d'en rediscuter, de refaire une émission avec vous, avec la CRIRAD, mais la CRIRAD est sur place, a été sur place au Japon à deux reprises. Elle travaille avec le CRMS. Quels enseignements, en cas d'accident en France et en particulier dans la vallée du Rhône, vous tirez de cette collaboration ?
La CRIRAD, vous le savez, ça a été créé à cause de la catastrophe de Tchernobyl. On a beaucoup travaillé sur les conséquences de Tchernobyl, en particulier sur le territoire français. Mais pour nous, aller sur le terrain et voir les niveaux de contamination en 2011, en 2012, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment effroyable, c'est indescriptible. Il faut vraiment aller sur place avec un compteur GGR, puisque la radioactivité, ça ne se voit pas. Et quand vous faites les mesures... vous traversez des dizaines et des centaines de kilomètres. Et plus vous vous approchez, plus ça crache. Mais ça crachait en 2011, on le mesurait déjà en atterrissant à l'aéroport de Tokyo. Quand vous voyez cette radioactivité partout, alors que les gens, les enfants, les gens, tout le monde vit normalement, sans masque, sans protection, sans changer les habitudes, c'est quelque chose qui est bouleversant, qui est révoltant. Et donc, d'une manière générale, ce qu'on voit bien, c'est qu'en fait, on le savait, mais c'est vécu par des gens, la catastrophe nucléaire, c'est absolument ingérable. La seule façon que vont trouver les gouvernements pour le gérer, c'est le mensonge, c'est-à-dire la désinformation. Laisser croire aux gens qu'en dessous de 100 millisieverts, 20 millisieverts, il n'y aurait pas de risque pour la santé, ce qui est totalement faux. Les inciter à revenir sur les territoires contaminés. Donc ça ne peut fonctionner que s'il y a du mensonge. Les sommes investies pour essayer de minimiser un peu la situation sont énormes, avec des résultats qui sont dérisoires. La décontamination est absolument impossible. Nous avons fait des contrôles avec Wataru Iwata en 2012, par exemple, sur une maison qui était censée avoir été décontaminée. L'habitante nous a expliqué que des techniciens par équipe de 4, 5 ont travaillé pendant plusieurs semaines, ont changé la terre du jardin, ont lavé les arbres, ont arraché les feuilles des arbres dans la forêt en face. Et bien malgré tous ces travaux, la radioactivité n'avait été divisée que par 2, parce que le césium-137 a une période de 30 ans, sa radioactivité n'est donc divisée par 2 que tous les 30 ans. Les rayons gamma extrêmement puissants qu'il émet peuvent parcourir des dizaines et même des centaines de mètres dans l'air. Donc si vous voulez vraiment décontaminer une maison, vous devez enlever la terre, les arbres, à des dizaines et des centaines de mètres autour de la maison. Et dans le cas de cette habitation, par exemple, le jardin n'avait absolument pas été décontaminé. Donc décontaminer des territoires aussi vastes, c'est absolument impossible. Et ce qui se passerait pour nous, par exemple dans la vallée du Rhône, en cas de catastrophe nucléaire, ce serait probablement aussi terrible. Avec les vents que nous avons en plus dans la vallée du Rhône, vent du nord, vent du sud, on peut imaginer une extension de la contamination extrêmement importante, et tout le monde sait que ce sera absolument ingérable.
Mais merci Bruno, on voit que la démarche scientifique n'a pas été que scientifique, mais que ça a été aussi un moment fort pour vous au Japon, quoi. Bah, merci encore Bruno, et il faudra dire merci à Wataru.
Et voilà la fin de cet entretien. Comme Bruno Charréron a terminé sur le mensonge obligatoire, et ça tombe bien parce que Jeanne voulait nous parler justement de ce mensonge.
Voilà, donc on nous dit que tout est sous contrôle en cas d'accident nucléaire, mais c'est pas tout à fait vrai. Donc l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, l'ACRO, a lancé une campagne en novembre 2014 pour que la France étende la distribution des comprimés d'iode autour des installations nucléaires. Qui est l'ACRO et pourquoi cette campagne? L'ACRO, c'est une association agréée de protection de l'environnement dotée d'un laboratoire d'analyse de la radioactivité. Elle fut créée en 1986 après la catastrophe de Tchernobyl, comme la CRIRAD, mais dans l'Ouest, vers La Hague en fait. Donc pourquoi cette campagne? La Suisse termine la distribution des comprimés d'iode dans un rayon de 50 km autour de ses quatre centrales nucléaires. En France, la distribution s'arrête toujours à 10 km, sans prendre en compte les leçons de la catastrophe de Fukushima. Les autorités françaises ont récemment publié un plan national de réponse à un accident nucléaire qui n'a pas étendu le rayon de distribution de ces comprimés. Pourtant, lors de l'accident de Fukushima, la zone dans laquelle la dose à la thyroïde pouvait dépasser les critères de prévention fixés par l'AIEA, 50 millisieverts pour les 7 premiers jours, s'étendait jusqu'à environ 50 km de la centrale. La centrale de Fukushima Daiichi étant située en bord de mer, 80% des rejets atmosphériques sont allés vers l'océan Pacifique. Ce ne sera pas le cas si une catastrophe nucléaire survient en France. La distance de 50 km choisie par la Suisse est donc un minimum et devrait être adoptée par les autres pays européens. En Suisse, le nombre de personnes bénéficiant d'une boîte de 12 comprimés va ainsi presque quadrupler pour atteindre le nombre de 4,9 millions de personnes, incluant les habitants des villes de Zurich, Bâle, Neuchâtel et Lucerne. Ceci représente près de 60% de la population suisse. Le coût de l'extension, environ 25 millions d'euros, sera couvert par les compagnies d'électricité. Ah, EDF ne veut peut-être pas payer en France. Question à se poser. En Allemagne, la commission de protection radiologique conclut qu'il pourrait être nécessaire d'administrer de l'iode stable aux enfants, jeunes et femmes enceintes qui sont bien plus éloignés de la centrale, plus de 100 km, mais sous les vents. Les autorités de sûreté européennes ont récemment recommandé que la thyroïde puisse être protégée jusqu'à 100 km en cas d'accident grave. C'est le groupe de travail Athlète 6 qui a défini cette norme. Les autorités françaises ont validé ce texte. Qu'attendent-elles pour l'appliquer? Alors que l'autorité de sûreté nucléaire reconnaît qu'un accident nucléaire grave est possible en France, la protection offerte aux résidents français n'est pas suffisante. Et là, on ne parle que de l'iode, on ne parle pas du césium et de toutes les radionucléides divers et variés qu'une catastrophe entraîne. L'ACRO demande donc que le rayon de distribution des comprimés d'iode soit fortement étendu en France, à l'instar de la Suisse. En attendant, comment se procurer des comprimés d'iode? En allant chez son pharmacien, on peut se procurer une boîte de 10 comprimés dosés chacun à 65 mg. Le pharmacien peut se fournir auprès de la pharmacie centrale des armées. Bien que considérés comme un médicament, ces comprimés sont toutefois délivrés sans ordonnance, au prix d'environ 8 euros la plaquette. Vous devez télécharger la notice de l'ASN sur les doses à prendre en fonction de l'âge. La doctrine française ne prévoit qu'une seule prise d'iode, éventuellement renouvelable une fois, si l'évacuation est impossible. Des études expérimentales sont en cours pour déterminer les risques éventuels liés à une prise répétée de comprimés. Aucune étude n'avait été faite sérieusement puisqu'une catastrophe nucléaire était impossible en France. Et les études en cours seront disponibles dans 5 ans. En attendant, croisez les doigts.
Merci Jeanne, on va croiser les doigts, effectivement.
Oui, alors si je peux me permettre, juste, je veux dire, moi j'habite depuis 3 ans dans une commune qui est dans le PPI à 10 km d'une centrale, enfin moins de 10 km d'une centrale nucléaire. Eh bien, on m'a jamais distribué d'iode.
Voilà. Ben voilà, le message est lancé. Pierrick, l'agenda.
Et c'est parti pour les activités du mois d'avril. Alors, évidemment, ça a commencé par Pâques pour aller chercher vos œufs à la centrale de Paluel, mais si vous avez envie de faire un petit peu mieux, je vous invite à participer comme chaque samedi matin, Porte Neuve à Valence, de 11h à 12h30, à la présentation des cartes PPI dont on vient de parler. On voit combien elles sont importantes et on peut remercier les obstinés de la Porte Neuve qui tiennent ce spot depuis un certain temps. Bientôt, il y aura une nouvelle version de la carte pour un aperçu des pollutions qui sont possibles en cas d'accident par vent du nord et par vent du sud. Ça permettra d'agrémenter un petit peu les discours. Ensuite, le 25 avril à 14h, il y a un événement à n'absolument pas rater sous aucun prétexte, c'est l'Assemblée Générale de Sortir du Nucléaire en Dromardèche, qui aura lieu donc le 25 avril à 14h au Théâtre de la Fabrique, 80 avenue Maurice Faure à Valence, à côté du Parc des Trinitaires. Au programme, il y aura un bilan, la définition des objectifs et le fonctionnement qui sera au programme pour l'année 2015-2016. Ensuite, on a proposé de faire un petit goûter sympathique en attendant à 18h, le même jour, une conférence débat organisée avec Sortir du Nucléaire en Dromardèche, la Frappe Nadrom et la CRIRAD. Cette dernière, la CRIRAD, nous présentera 3 dossiers, un dossier sur les transports nucléaires, un dossier sur la radioactivité et les aliments, et un dossier sur Fukushima. Et nous parlerons éventuellement de la recherche et de ces derniers émoluments. Donc, si vous pouvez être présents, ce serait parfait. Bruno Charéron, Julien Sirène, Corinne Castagnier et Roland Desbordes de la CRIRAD, eux, feront le déplacement. J'espère qu'on vous comptera parmi nous. Et puis enfin, si vous voulez plus d'informations sur les manifestations dans la région et au-delà, notamment pour commémorer la triste date du 26 avril, le 29e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, vous pouvez vous rendre sur le site du réseau Sortir du Nucléaire, sortirdunucléaire.org, et vous aurez accès à l'agenda et vous pourrez choisir de vous impliquer dans différentes actions, et notamment les actions Tchernobyl, qui précisent que n'importe quelle ville est capable de se transformer en Tchernobyl pourvu qu'elle soit à proximité d'une centrale nucléaire. Voilà, et en vous remerciant.
Eh bien, merci Pierrick. Alors, je rappelle que vous pouvez nous joindre sur notre répondeur au 08 05 69 67 58 et c'est un appel gratuit. La prochaine émission d'Atomic Mac sera le lundi 4 mai 2015. Cette émission-là a été présentée, on va commencer par la technique, Pierre et Céline qui ont été tous les deux derrière les consoles. Et les billets, on a eu bien sûr Céline et Vanessa, l'agenda Pierrick et la désintox Jeanne et Dominique qui a fait l'interview.
Alors, excuse-moi de t'interrompre Dominique encore une fois aujourd'hui, mais quand même tu as oublié quelqu'un.
Et j'ai oublié.
Mais tu as oublié Aloïs.
Mais alors j'allais dire justement Aloïs qui était présent.
Parce que c'est quand même sa première, ça se fête.
C'était sa première et on l'a même entendu crier un tout petit peu là, donc
il est passé sur l'antenne.
Voilà. Et donc Aloïs qui est tout bébé et qui est avec nous. Voilà, et bien nous allons nous quitter sur la chanson de Bonga qui s'appelle, alors je vais essayer, Mona Ki Ngi Xika.
Aluke nungolo fwa Gamu bingi kiaze Wene wando kala benyaba Emengondo ya nye Namona mwenye Isu ya weza Mona mona mwenye Kaduna mumba Mona mona mwenye Isu ya weza Mona mona mwenye Aluke nungola fwa Damu bingi kiaze Mwenye wando kalabe nyaba Eme ngondo ya mye Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye Kanunga mwa Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye Ngumba aluke nungola fwa ngamu bingi kiaze mwene wando kala benyaba eme ngondo ya nye mona mona mwenye weya weza mona mona mwenye galunga ngumba sambi wangi panamona kamu valele mwene wando kala benyaba Eme ngondo ya nye Mona mona mwenye Lunga ngumba Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye Lunga ngumba Zambi wangi panamona Gamu falele Mwanyeze wando kala benyaba Eme ngondo ya nye mwenye Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye Kalunga mba Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye Kalunga mba Aluke nungolo fwa Gamu bingi kiaze Mwenye wando kala benyaba Eme ngondo ya nye Mona mona mwenye Suya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Zambi wangi panamona Kamu valele Mwenye wando kala benyaba Eme ngondo ya nye Mona mona mwenye Suya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Sambi wangi panamona Kamu falele mwanyese wando kala benyaba Eme ngondo ya nye Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye se Weya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba